temps des écrivains. Une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour et bienvenue dans Le Temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, une émission centrée autour d'un thème tellement de circonstances, l'exil. L'exil ou la souffrance, souffrance de ces milliers et milliers de malheureux, ces migrants, qui traversent désert, grillage et mer pour tenter de se forger un autre destin que celui que la mort dessine pour eux et leur famille. Il y a 7 ans, l'écrivain Daniel Rondeau, alors ambassadeur à Malte, dont il avait raconté les camps de réfugiés, organisait une mission baptisée Ulysse 2009 avec des écrivains qui sillonnaient la Méditerranée sur un pétrolier ravitailleur. 2009 car c'était en 2009 et Ulysse car écrivait Daniel Rondeau. Aujourd'hui, Ulysse est noir, syrien, irakien, afghan. Il meurt en mer dans le silence des vagues ou dans un camion glaciaire entre la France et le Royaume-Uni. La figure d'Ulysse, l'exilé mythique, tentant en vain de revenir chez lui après des années de guerre, planait sur ce voyage comme il plane aussi sur les livres dont nous allons parler ici avec leurs auteurs Velibor Čolić, Doğan Büyü et Daniel Arsan, réunis donc aujourd'hui autour du thème de l'exil. Bonjour Velibor Čolić.
Bonjour.
Alors vous publiez Manuel d'exil, comment réussir son exil en 35 leçons chez Gallimard, dans lequel, à travers une écriture poétique, pleine de fantaisie aussi, et d'humour parfois absurde, de fulgurance, de faux proverbes, de paradoxes, eh bien un narrateur raconte ses premières années d'exil de 1992 à 2000. Le récit commence avec son arrivée à Rennes, où il débarque totalement démuni après avoir déserté l'armée bosniaque, dans les rangs de laquelle il a vécu 5 mois d'enfer. Il laisse alors derrière lui une carrière d'écrivain prometteuse, 2 romans publiés, 1/3 manuscrit disparu dans les cendres de sa maison brûlée pendant la guerre. Il est désespéré, il est sans argent ni ami, il ne parle pas le français, il se retrouve dans un foyer pour réfugiés, parmi une population assez disparate, des familles africaines, d'ex-soldats russes, des paumés de toute espèce. Et il ne cesse jamais, entre souvenirs d'enfants nés sous Tito, entre interrogations sur la barbarie de la guerre civile, sur les plaies ouvertes en Europe, aussi par l'incurie européenne en ex-Yougoslavie durant le conflit, il ne cesse de s'accrocher à son rêve d'écriture. « I am a writer », martèle-t-il sans cesse, ce narrateur exilé, porté par une phrase de Victor Hugo. Pourquoi ce mot manuel, Velibor Čolić, accompagné par ce sous-titre très développement personnel, comment réussir son exil en 35 leçons, qui laisse à croire qu'il y aurait un parcours de l'exil qu'on peut réussir ou rater?
Alors d'abord, parfois j'ai dit comment réussir son exil en 35 leçons selon organisateur et en 3 leçons selon la police, il y a toujours un petit décalage. Plus sérieusement, le manuel d'exil, récemment j'étais à Paris, une dame lectrice m'a demandé, alors monsieur, vous avez réussi votre exil? Et je lui dis, madame, réussir son exil, oui, mais je le paye très 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 cher. Je vais expliquer, pour réussir, selon moi, pour réussir vraiment l'exil, il faut qu'on meure un petit peu. Il faut qu'on meure quelque part. Pour réussir entièrement mon exil, je renonce à quelque chose d'énorme pour un écrivain. Je renonce à ma langue maternelle. Donc oui, j'ai réussi mon exil, mais j'ai payé très très cher.
Avec cette belle phrase de Victor Hugo dont je parlais. Vie pauvre, exil, mais liberté, mal logé, mal couché, mal nourri. Qu'importe que le corps soit à l'étroit, pourvu que l'esprit soit au large. On en reparlera. Bonjour Doğan Büyü.
Bonjour.
Vous publiez Le silence de mon père aux éditions L'Iconoclaste, qui vient de remporter d'ailleurs le prix littéraire de la Porte Dorée, c'était il y a quelques jours.
Exactement.
Alors c'est un livre qui commence le jour où un homme qui venait du nord du Vietnam, eh bien c'est le père de la narratrice, cet homme, et ce jour-là il est frappé en France où il vit d'aphasie suite à un accident vasculaire cérébral, il ne parlera donc plus. La narratrice réalise alors, face à ce père sans mots, qu'elle sait peu de choses sur ses parents, sur leur immigration, Cette narratrice, elle a été, je vais pas dire c'est vous, est-ce que c'est un roman, est-ce que c'est un récit, est-ce qu'on peut...
On est toujours un peu une fiction de soi-même, donc c'est moi, c'est d'autres, donc...
Donc on dit la narratrice.
Mais c'est aussi moi, voilà.
Parfait. Cette narratrice, elle a été élevée, comme ses cinq frères et sœurs, dans le silence, car parler dans cette famille, cette, écrit-elle, pleurnicher et se complaire, c'est un truc de français, voilà, autre expression qu'elle utilise. Et face à ce nouveau silence imposé par la maladie, elle décide d'enquêter sur ce père, sur sa famille paternelle, et découvre ce qu'elle n'aurait jamais peut-être dû découvrir. Doane Buy, vous êtes aujourd'hui grand reporter à l'Obs. Vous avez obtenu en 2013 le prix Albert Londres pour un article sur les migrants qui tentaient de rejoindre l'Europe via la Grèce. Et vous signez aujourd'hui un beau livre qui repose assez, au fond, sur un paradoxe. Vous avez interrogé dans votre vie de journaliste des migrants de tous les pays, mais jamais osé poser de questions à votre propre père.
Oui, ça montre à quel point le déni et le silence peut être enraciné dans nos identités, puisque pendant des années et des années, je me suis intéressée aux histoires des migrants de tout pays. Et en revanche, je faisais un blackout total sur l'histoire des miens, l'histoire de mon père, l'histoire du Vietnam, même ne m'intéressait absolument pas. Donc je me retrouve assez dans ce que dit Vélibor, bon, parce que pour mon père, effectivement, il y a eu cette mutilation de la langue maternelle, puisque ses propres enfants, moi je parle même plus vietnamien alors que c'était ma langue maternelle. Et lui-même, j'imagine qu'il a dû se sentir étranger dans sa propre famille. Donc c'est une double amputation d'être privé de sa langue et de voir que ses propres enfants ne parlent pas sa langue.
Vous avez résolu ce paradoxe, finalement, là c'est fait maintenant grâce à ce livre. Vous avez compris pourquoi vous pouviez le résoudre aujourd'hui.
Enfin, c'est effectivement une tentative de réconciliation, même si effectivement cette mutilation, elle a été incarnée, puisque de par cette aphasie qui a frappé mon père, il n'a plus de mots depuis 2005. Donc en fait, depuis 2005, j'ai essayé de réparer ce silence via ce livre.
Par les mots. Bonjour Daniel Arsan.
Bonjour.
Vous publiez « Je suis en vie et tu ne m'entends pas » chez Actes Sud. On est en 1945 et Klaus Hirschkou déambule dans sa ville natale, Leipzig, en ruine. Il vient de passer 4 ans à Buchenwald parce qu'il était homosexuel, ce qu'on appelle un triangle rose. Il a 23 ans, il frappe à la porte de ses parents, mais en vain. Il se sent étranger dans sa propre maison. Ce là-bas qui n'était pas si loin ne le serait jamais, dit-il. Il s'exile alors pour la France. Le lecteur suit, si j'ose dire, ses aventures, métier de tailleur, ami, le jardinage, l'amour pour Julien, malgré l'intolérance, malgré la violence dans cette province française où il entend, un jour de 1990, la phrase suivante « Les PD au four ». Daniel Arsan, quand on lit ce livre, qui est un hommage vraiment très très beau à la mémoire des déportés homosexuels, dont de nombreuses phrases font mal, avec des mots d'une extrême crudité, et ce personnage d'amoureux qui ne pourra jamais aimer au grand jour, on a l'impression que si survivre à Buchenwald a été un combat, vivre en France, pour votre personnage, en est un autre de combat.
Oui, parce qu'il a appris une nouvelle langue, il s'est forgé un autre univers, mais il est parti quasiment d'un monde en ruine, d'une famille en ruine, évidemment Buchenwald, mais il va peu à peu comprendre qu'il survit, mais il n'est pas fait que de survie, il est aussi fait de vie. Et c'est à partir de cette petite partie en lui qui va grandir, qui va se fortifier, si j'ose dire, qu'il va peu à peu se reconstruire.
Avec un retour au pays natal qui est aussi un retour dans son propre corps.
Il y a tout le problème du corps, ou tout au moins il va reconquérir son corps.
Alors je voudrais, pour commencer cette émission, vous lire la citation de quelqu'un que j'aime bien. Il s'appelle Lysias, il était métèque, il était orateur. Et en 412 avant Jésus-Christ, il intente un procès au meurtrier de son frère. Érastothène, c'était l'un des 30 tyrans d'Athènes, qui avait spolié tous les biens de la famille parce qu'ils étaient métèques, donc on pouvait se servir. Contre Érastothène fut donc prononcé par un orateur qui n'était pas autorisé à plaider, justement parce qu'il était métèque, et il dit, Érastothène, cette phrase simple, « Combien de compatriotes furent exilés par eux chez les ennemis? Combien d'innocents exécutés et privés de sépulture? Combien dépouillés de leurs droits de citoyens? Combien de filles qui allaient se marier et qu'ils en ont empêché ?» Voilà, Lysias contre Érastothène. Évidemment, quand on lit ça aujourd'hui, on pense aussi parfois à cette cause qui envoie sur les routes, sur les mers, des malheureux d'aujourd'hui, des migrants, comme on le dit aujourd'hui. J'aime bien cette citation parce qu'elle réunit vos livres. L'exil, je voudrais vous poser la question à tous les trois, Est-ce que vous le voyez, vous aussi, aussi tragiquement que lui, c'est-à-dire une grande encoche dans la ligne d'un destin, une rupture de trajectoire plus qu'une autre trajectoire, comme si l'individu exilé subissait une mutation si profonde qu'il en devient un autre en laissant derrière lui une part de lui-même. Velibor Čolić.
Moi, quand je suis arrivé à Rennes, j'oublierai jamais la date. C'est une deuxième partie de ma vie qui a commencé. 22 août 1992. Je pose mon sac, je regarde le monde, je regarde ma nouvelle terre et je me suis dit, et puis quoi maintenant? L'exil, et pour moi, c'est ça. Je me suis senti à ce moment comme un petit animal chassé, épeuré et perdu. Et le reste du temps, et d'où mon livre manuel d'exil, c'est la quête pour retrouver la verticalité de l'homme. C'est-à-dire retrouver l'homme en moi-même et retrouver la force et le moyen de regarder le monde entier droit dans les yeux. Voilà. Pour arriver en France, j'ai traversé pas mal de frontières entre ma Bosnie natale et la France. Donc, j'ai traversé la frontière croate, slovène, autrichienne, allemande, mais la plus grande frontière pour moi, c'était la langue. Je sentais que de ne pas pouvoir s'exprimer, de perdre mes moyens pour un écrivain, perdre mes moyens, c'est-à-dire perdre la langue, je sentais ça comme une gifle, comme une insulte.
Doane Buy, quand vous êtes penché sur l'itinéraire de votre père, vous citez beaucoup la figure d'Ulysse hein, qui revient dans le livre. Vous avez expérimenté aussi cette vie dont parlait Velibor Čolić, c'est-à-dire d'une nouvelle vie en parallèle, quoi, parce qu'on est étranger peut-être
oui,
dans sa propre langue même.
Pour mon père, quand il arrivait à 20 ans, il y a un avant et un après. Pour lui, il y avait cet exil avec sa langue très fort, puisque quand il arrivait en France, pareil, il ne parlait pas du tout français. Donc, le peu de choses qu'il nous racontait, enfin d'ailleurs que ma mère nous racontait, c'est qu'il faisait des études de médecine et comme il ne comprenait rien, en fait, il apprenait tout en phonétique. Et c'est vrai que du coup, ça me rappelle effectivement, bah, quand justement dans des reportages, on voit bien que c'est ce problème de la langue, on est dans une espèce de Babel où personne n'arrive à se comprendre. Et en fait, quelquefois, le seul mot que tout le monde arrive à comprendre, c'est « Calais ». Enfin, il se calasse, ou est-ce que c'est calasse enfin, Et voilà. Il y a deux, trois mots que tout le monde se partage. Et, enfin, on voit à quel point on bute sur cette incommunicabilité.
Daniel Arsan, on voit que l'exilé est donc un héros littéraire hein, à travers vos livres et puis à travers cette figure mythique, littéraire par excellence, qui est Ulysse. Mais c'est aussi l'écrivain lui-même. Il y a de grandes figures d'exilés parmi les écrivains. Alors Ovid, hein, qui était exilé sur le territoire de l'actuelle Roumanie par Auguste, qui demandait inlassablement à l'empereur son retour dans les tristes. Du Bellay, forcé de passer 4 ans à Rome pour une mission diplomatique, mais qui se voyait un destin comme celui d'Ovid, puisque les regrets fait référence au triste d'Ovid. Hugo, à Jersey et à Guernesey, à la suite de la prise de pouvoir de Napoléon. Puis j'aurais pu parler de Solzhenitsyn en Suisse, puis aux États-Unis, qui fuyait l'URSS. Est-ce qu'on écrit, Daniel Arsan, parce qu'on vit l'exil, ou est-ce qu'écrire, de toute façon, c'est s'exiler? C'est Linh Daley, française d'origine vietnamienne, qui le disait.
Je ne sais vraiment pas si écrire, c'est s'exiler, mais je sais que j'ai été marqué par le thème de l'exil. Parce que mon père était d'origine arménienne, il a fui le génocide, et mon père a été mutique. Enfin, tout au moins absolument silencieux sur ce qu'il avait vécu. D'ailleurs, mon précédent livre qui était autour des événements qui annonçaient le génocide, c'était un moyen, et peut-être que tous mes livres, c'est ça, hein, c'est de répondre au silence du père par les mots, par la littérature, par une voix qui peut-être essaye de le rejoindre. Enfin, il y a cette volonté-là.
On va continuer à explorer avec vous cette piste de l'exil. On va commencer avec Velibor Čolić. Vous publiez chez Gallimard, donc Manuel d'exil, comment réussir son exil en 35 leçons. On en parle, mais on écoute d'abord votre choix musical. Vous avez choisi Lou Reed, Perfect Day. C'est un extrait évidemment de l'album Transformer.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good.
I thought I was someone else. C'est Lou Reed, Perfect Day. C'est le choix de Velibor Čolić, qui publie chez Gallimard Comment réussir son exil en 35 leçons. C'est le sous-titre de Manuel d'exil. Velibor Čolić, pourquoi évidemment ce choix de Perfect Day?
Dans ma vie avant, c'est-à-dire avant l'exil, avant la guerre, avant plein de choses, avant que j'avais un accent, j'ai travaillé à la radio à Sarajevo, radio d'État. Et l'avantage de notre communisme à la Yougoslave, l'héritage de notre cher maréchal Tito, que notre régime, il était très très souple vis-à-vis de diverses musiques occidentales. Que nous racontons ça, j'avais une émission qui cartonnait, 22h, Rock Express, où je passais le rock indépendant de l'époque, ces grandes époques d'Oxonicus, Pixies et tout ça. Là, je pensais, parce que je suis arrivé parmi les quelques bricoles, si vous me permettez, que j'ai ramené en France, avec mon passeport, quelques chemises, comme ça. J'avais un Walkman de l'époque à cassette. J'avais deux cassettes. Lou Reed. Et la deuxième cassette, c'est une sorte de best-of de Leonard Cohen. Mm. Et j'ai passé plus de temps à rebobiner les cassettes avec mon stylo. Et donc, j'ai écouté Lou Reed et pour économiser les piles. Nos générations, ça rappelle. Donc, j'ai rebobiné comme ça. Et Lou Reed accompagnait mes premières pas sur le pavé de Rennes, de Paris, de Strasbourg. Voilà.
Alors Rennes, effectivement, où commence ce manuel d'exil, sous-titré « Comment réussir son exil en 35 leçons », c'est chez Gallimard. C'est un livre dans lequel vous racontez avec une écriture pleine de fantaisie, et d'humour, de douleur aussi, les premières années d'exil d'un narrateur de 92 à 2000 en France, après des mois de guerre dans ce pays qu'il faut bien appeler l'ex-Yougoslavie, ce pays qui n'a plus de nom, au fait. Qu'il y en a plusieurs. L'homme qui parle a apparemment laissé derrière lui une carrière d'écrivain, deux romans publiés, un troisième manuscrit disparu, et puis il se retrouve parmi une population disparate, des familles africaines, d'ex-soldats russes, tout en s'accrochant encore, et ça c'est vraiment chevillé à son corps, à son âme, le rêve de l'écriture. I am a writer, dit-il tout le temps. Vie pauvre, exil mais liberté, mal logé, mal couché, mal nourri. Qu'importe que le corps soit à l'étroit, pourvu que l'esprit soit au large. Cette citation d'Hugo sur l'exil que vous avez choisi de mettre en exergue, est-ce qu'elle suggère que l'homme, effectivement, par la largesse de son esprit, est capable de passer outre l'exil physique et ses misères? Ou est-ce qu'il n'y a pas un peu d'ironie? Parce que vous décrivez dans ce livre les misères quotidiennes de la vie de l'exilé. L'alcool, les repas les moins chers possibles avalés très rapidement, le désir des femmes compliqué, la question du désir aussi. Et donc ça apparaît en totale contradiction avec Hugo qui nous dit au fond qu'il est exilé, certes, mais il est libre et que son âme s'envole.
Moi j'ai comparé mon destin, bien évidemment, à avec les grands exilés. Je suis allé consulter même le tombeau d'Oscar Wilde. Je me dis peut-être, grand Oscar veut me donner quelques astuces. Je pensais à Henry Miller, je pensais à Hemingway. Et après, à un moment, je me suis dit, peut-être pour Hemingway, c'était plus facile aller boire le Martini Dry au Ritz. Et moi, je mangeais cassoulet à 3 francs, comme ça. J'étais toujours pauvre, toujours exilé, toujours illettré, et j'avais en plus la gueule de bois, donc ça n'arrangeait pas. Ma force, c'était la littérature. Je dis déjà, quand j'étais le soldat, malheureusement, j'étais le soldat, j'avais toujours un petit stylo et j'écrivais. Et c'est peut-être, ce acte de petit soldat, de pauvres exilés, d'étrangers, d'Ulysse, de Metec, de drôles, de sans visage, sans nom, qui essayent d'écrire, qui m'approchaient au maximum. Je ne me sentais pas un homme. Je me sentais comme vraiment une sorte d'insulte, une cicatrice qui m'approchait au maximum vers l'homme, vers l'humanité.
On va vous écouter, Velibor Čolić, lire, c'est la deux premières pages, en fait, de ce manuel d'exil.
J'ai 28 ans et j'arrive à Rennes avec pour tout bagage 3 mots de français. Jean, Paul et Sartre. J'ai aussi mon carnet de soldat, 50 Deutsche Mark, un stylo à billes et un grand sac de sport vert olive élimé d'une marque yougoslave. Son contenu est maigre. Un manuscrit, quelques chaussettes, un savon difforme. On dirait une grenouille morte, une photo d'Emily Dickinson, une chemise et demie. Pour moi, une chemise à manches courtes n'est qu'une demi-chemise, un rosaire, 2 cartes postales de Zagreb et une brosse à dents. C'est la fin d'été 1992, mais je suis habillé comme pour une expédition polaire. 2 vestes d'une autre époque, une longue écharpe aux pieds et mes bottes en daim, avachies, mordues 1000 fois par la pluie et le vent. Je suis un cavalier léger. Un voyage au visage scellé par un froid métaphysique, cet ultime degré de la solitude, de la fatigue et de la tristesse, sans émotion, sans père ni honte. Devant la gare de Rennes, je pose mon sac et j'observe longuement ma nouvelle terre. Je murmure une complainte stupide et enfantine, tout en sachant que les mots ne peuvent rien effacer, que ma langue ne signifie plus rien, que je suis loin et que ce loin est devenu ma patrie et mon destin. J'ai la sensation d'être plongé dans un univers aquatique où chaque geste, chaque mouvement et chaque mot est étouffé dans un silence inquiétant. Comme un rêve dont on ne se réveille pas, un étrange ballet de 2 mondes qui ne se touchent pas. Je reprends mon bagage et je descends dans la rue. Je marche lentement, tel un promeneur de dimanche. Finalement, rien ne me presse. Dans les circonstances moins tragiques, j'aurais pu me sentir libre comme un vagabond.
Voilà, et là évidemment on pense à Rimbaud, à ces images que la littérature a véhiculées. Votre personnage choisi, Velibor Čolić, un patronyme français, Alain Balzac. Pourquoi vous choisissez ce nom,
Alain Balzac, Oui. J'ai choisi le prénom Alain un peu populaire, vous êtes d'accord? Et Balzac, ça faisait un peu chicos. Et il fallait dire que c'était dans une situation un peu particulière. C'était avec mes copains roms à Budapest. Il y avait géopolitique assez compliquée. Et donc je me suis dit, si je dis mon nom et prénom yougoslave, ça va fausser. Non, ils vont dire, est-ce que t'es serbe comme ça? Comme ça, Alain Balzac. Quand j'entrais dans les bars clandestins, j'avais même droit parfois à l'avion rose en violon, comme ça. Donc voilà. Populaire.
Et chicos
à la fois.
Vous étiez dans l'armée bosniaque, hein, je vous cite, Velibor Čolić. Je suis soldat. Le soir, je suis ivre et je chante avec mes compagnons nos belles ballades tristes et je rêve de devenir autre chose, peu importe quoi. Une fourmi, un arbre, un oiseau, un serpent. Je rêve que je ne suis plus un homme. En vain, je suis un soldat. J'ai ma Kalachnikov, mon corps inutile, un livre d'Emily Dickinson et une prière de Saint-Augustin, soigneusement recopiée, en lettres majuscules, dans mon journal de guerre. Qu'est-ce que c'est que ce journal de guerre dont vous parlez?
Ce journal de guerre, c'est un carnet noir que j'ai toujours, qui m'accompagnait de tous mes déménagements, de tous mes divorces, de toutes
mes... Ce qu'on appelle un viatique.
Oui, qui est devenu mon premier livre publié en français, les Bosniaques en ville barbelée, où je prenais les notes en direct. C'était ma réaction, c'était tout ce que je pouvais faire, quand je disais pour rester l'homme. J'ai réussi même à le sauver pendant un bref instant terrible, comme un cauchemar, où j'étais enfermé dans un stade. Ils aiment bien enfermer les gens dans le stade, l'extrême droite, comme un traître, parce que mon père m'a dit, fiston, t'es pas un homme, t'es un miracle. Je suis d'origine croate, mais j'étais dans l'armée bosniaque. Et donc, à un moment que j'ai déserté l'armée bosniaque, il y a eu 3 armées, serbes, croates, bosniaques, mais cherchaient pour me tuer, vous voyez. Ils n'ont pas réussi.
Ce qui est très frappant dans ce livre, Libor Cholic, c'est ce rôle, cette omniprésence du corps, en fait. On pense toujours, quand on dit exil, à l'âme. Et quand on vous lit, Libor Cholic, je vous cite, « Le nouveau monde autour de moi est anguleux et dangereux. Je le vois comme un gigantesque flipper. Je me cogne tout le temps et partout où je passe. Les tibias, les hanches, les épaules et ma pauvre tête. Je me heurte avec une force aveugle. Je saigne. J'ai la sensation que cette addition de petites douleurs me confirme que je suis toujours bel et bien vivant. Je me suis mal adapté. Ma France est faite d'un espace réduit et d'objets maléfiques. » Est-ce que ça veut dire que finalement, pour évoquer l'inadaptation de l'exilé à sa nouvelle culture, eh bien ça se joue dans le corps, dans le physique ?
Bien sûr. Moi, j'ai fait 1m95, une bonne centaine de kilos. Tendance décrue, j'espère. J'avais une idée très romantique. Et si vous me permettez, gonfler de moi, je m'imaginais comme un dandy ténébreux, une sorte d'Oscar Wilde. Mon cauchemar, c'était les miroirs, les vitrines. Chaque fois que je passais devant un miroir devant comme ça, je dis non, c'est moi ça. Je suis ni beau, ni mince, ni ténébreux. Je suis pauvre. C'était une sorte de rappel à l'ordre que je suis. Comme disait un voisin, mon ancien voisin de Budapest, Joseph Korda, qui je rends hommage, paix à son âme, m'a raconté le Paris, grande époque, où il était accordeur de piano et gigolo, et il s'est fait arrêter, il vient de Drancy, ramené à Auschwitz, un miraculé aussi, il me disait, jeune homme, j'oubliais parfois que je suis juif, mais il y avait toujours quelqu'un pour me rappeler.
Merci Velibor Cholic. On va continuer avec vous, Doane Buick. Vous publiez Le silence de mon père, c'est aux éditions L'Iconoclaste. D'abord, on écoute votre choix musical. Vous avez choisi, eh bien évidemment, Ibrahim Malouf, Les mille et une nuits, ouverture 1. C'est extrait de l'album Kalsoum. Ibrahim Malouf, Les mille et une nuits, ouverture 1, extrait de l'album Kalsoum. C'est le choix de Doane Buy. Vous publiez, Doane Buy, Le silence de mon père, aux éditions L'Iconoclaste. On parle de l'exil, aujourd'hui dans le temps des écrivains. C'est le musicien de l'exil.
C'est la personne que je voudrais être, Ibrahim Malouf. Donc Ibrahim Malouf, si tu m'entends, je t'aime. Donc voilà, en fait, pourquoi j'ai choisi Ibrahim Malouf. Parce qu'en fait, via sa musique, il arrive à réconcilier tous ses héritages, toutes ses racines, ce que moi j'ai pas réussi à faire pendant si longtemps. Et c'est vrai qu'actuellement, bah, surtout vu les débats actuels, il y a un peu une injonction à choisir une identité pour être un bon immigré, pour s'intégrer justement. Il faut se désintégrer. C'est-à-dire si vous ne vous mutilez pas de cette autre partie de votre héritage, vous n'êtes finalement pas un assez bon Français. Et moi, je pense que j'ai vraiment intégré cette injonction pendant très longtemps, puisque donc née en France. Voilà, je voulais être la parfaite petite française. J'avais, comme Vélibor, ce problème avec les miroirs. C'est-à-dire que moi, quand je me voyais dans un miroir, j'avais envie de voir devant moi quelqu'un
Ibrahim
blond.
Ibrahim Malouf.
Non, quelqu'un bah non, vous non, avez non, dit non, je voulais voilà. être blonde avec des yeux bleus ou être comme Camille et Madeleine de Fleurville, les petites filles modèles de la comtesse de Ségur. Et je me rêvais comme une parfaite petite française de souche. Et voilà, quand je me voyais dans le miroir, non, j'avais une tête de chinoise, donc je suis vietnamienne, donc pas du tout la tête à laquelle je m'attendais, que je me réveille. En plus, l'écriture, effectivement, il y avait un côté un peu sacré, parce que je me suis construite avec les livres de ma bibliothèque, mais en même temps, Duan Bi, c'était pas un nom d'écrivain, enfin, c'était pas du tout un nom que j'aurais pu voir sur un livre.
Alors, Duan Bi, vous publiez donc Le silence de mon père, donc livre qui vient de recevoir le prix littéraire de la Porte Dorée, dans lequel la remarquable journaliste que vous êtes, grand reporter à l'Obs, prix Albert Londres en 2013, justement pour un reportage sur les migrants, voilà, se confronte à une enquête, cette fois-ci personnelle, entre Le Mans, où vivent toujours vos parents, et le Vietnam, où se termine le livre. Une enquête sur ses origines et sur la vie passée d'un homme, votre père. Je dis votre père parce que vous avez dit vous-même, on n'est pas dans le roman, bon, une narratrice, on est toujours la fiction de soi-même, hein, on le verra. En tout cas, cette narratrice enquête sur cet homme, victime d'un AVC et condamné à l'aphasie. Son silence, qui était d'ailleurs sa caractéristique la plus forte, puisqu'il ne racontait rien, en tout cas, de son exil. Et cet homme que vous n'avez pas réussi à faire parler, vous qui faites parler tout le monde, eh bien, vous avez donc décidé de l'interroger dans ce livre, né d'une enquête sur celui que vous appelez ce roi déchu, auquel on a demandé de nier ce qu'il était pour s'assimiler. C'est une enquête qui, d'abord, vous l'avez rappelé, était impossible parce qu'il fallait lutter contre ce sentiment d'imposture, hein, car parler, c'est perdre la face.
Oui, dans ma famille, on se tait. Donc déjà, parler, c'est vraiment un entre guillemets, truc de français. Parler, voilà, aller voir le psy pour parler, se raconter, c'est pas du tout quelque chose qui est dans notre culture et c'est un peu se rabaisser puisque garder la face, c'est justement ne montrer que ce qu'on veut bien montrer de soi, ne pas gratter, ne pas se dévoiler. C'est vrai que tout à l'heure vous disiez, est-ce que écrire, c'est s'exiler? Je pense, pour moi, c'est pas s'exiler, mais c'est plutôt être à la recherche de ses propres fantômes, être à la recherche de tout ce qui a disparu, aussi de nos disparus, de nos morts, et notamment lors de mon enquête, j'ai découvert que le cousin de mon père était lui aussi mort comme Boat People. Et cette mort, en fait, personne n'en avait jamais parlé dans ma famille. Ma mère elle-même ne savait pas que le cousin de mon père était mort ainsi. Donc je trouvais ça paradoxal d'avoir tellement écrit sur les naufragés en mer, les migrants naufragés en mer, sans même savoir ça sur ma propre famille.
Vous parliez de revenants, de fantômes. C'est vrai que vous faites l'association revenir au pays natal. Et qui est aussi ce retour au pays des revenants, donc celui qui revient se confronte aux revenants. J'aimerais bien que vous nous lisiez ce passage de Duan Bi.
Nia, disait mon père dans son sommeil, allez à la maison. Nia, ce mot valise qui veut tout dire en vietnamien, la maison, le pays natal, la famille, l'endroit réel ou imaginaire que l'on habite, qui nous habite. Revenir à la maison, dit Nia, se dit Heimta en danois. C'est de ce verbe que nous vient le mot hanté. Ce voyage, donc je parle du voyage au Vietnam que j'ai fait avec mes parents, c'est un retour dans le nia de mes parents, une visite à nos fantômes. Nous sommes au sens propre des revenants.
Comment s'est forgée finalement cette association d'idées entre le retour au pays de votre père et le fait de se frotter aux revenants que sont justement ces gens qui habitent le nia,
le
la
nia,
maison.
Ouais. Dans la culture vietnamienne, il y a un rapport très proche avec les morts. Donc, dans toutes les maisons vietnamiennes, il y a un hôtel des ancêtres avec la photo des morts. Donc, moi, j'ai toujours vécu avec cette proximité des morts. Et évidemment, ce voyage aux sources, revenir avec mes parents sur les traces de leur passé, c'était évoquer ces fantômes. Et c'était aussi leur permettre, en fait, de se reconnecter avec ce pays qu'ils avaient perdu, puisque en fait ils étaient déjà revenus au Vietnam, mais comme touristes. Et ils en revenaient à chaque fois très, très amers, parce qu'ils avaient ce sentiment de perte très, très fort. Et cette colère aussi, parce qu'ils avaient l'impression qu'on leur avait volé le pays de leur enfance, qu'ils ne le reverraient plus jamais. Et là, cette fois, le fait de se confronter aux fantômes, d'aller justement dans les endroits où ils avaient habité, et de se confronter à, voilà, ces spectres du passé, c'est ça, en fait, qui leur a permis de reconnecter avec le pays de leur enfance. Et c'était la première fois.
Et est-ce que cette reconnexion, cette fois-ci, de vous à cette terre-là, ne passe pas aussi par une autre langue qui est la langue des contes. Vous citez beaucoup de contes, il y a notamment cette légende sur le crabe d'Atrang, la langue magique est là, que ce soit les légendes du Vietnam ou vos filles, vos muses pokémoniennes aussi qui vous entraînent dans une autre dimension, beaucoup plus onirique, beaucoup plus mythologique.
Oui, parce que pour moi, en fait, ce travail d'écriture, il est évidemment aussi de transmission par rapport à mes filles. Il se trouve que quand mon père a eu cet AVC, c'est l'année où je suis devenue mère. Donc je me suis beaucoup, évidemment, interrogée sur mes racines, ce que j'allais leur transmettre. Et donc, oui, c'est effectivement lié à ce qu'on raconte. Et cette histoire que je raconte de ma famille, pour mes petite fille, ça a la dimension d'un conte, elle ne connaissait pas le Vietnam, donc c'était comme justement les contes que me racontait ma grand-mère, je comprenais un mot sur deux, mais pour moi, la langue vietnamienne, que malheureusement je parle très très mal, elle est liée à cet univers de l'histoire qu'on raconte à son enfant le soir. Ma mère me chantait des berceuses en vietnamien, et moi, même si je parle hyper mal en vietnamien, je chante des berceuses en vietnamien avant de les endormir, et c'est un rituel, et c'est ce genre de rituels liés à l'enfance, parce que même si on ne vient pas d'autres pays, je pense qu'on est toujours aussi en exil de son enfance. Ça reste une patrie perdue pour nous tous. Mais effectivement, il y a ce lien très fort pour moi entre l'enfance, les contes et l'imaginaire, quoi.
Et le langage, je voudrais qu'on fasse connaissance avec ce père. Hein. Quand mon père s'en allait travailler, il était toujours impeccable, droit comme un i. De retour à la maison, il se changeait aussitôt. Il enlevait son armure, son costume trop serré et laissait alors son pays perdu se couler dans son âme comme du plomb fondu. « Je suis éloigné du pays comme un ver dans un cul-de-sac », a écrit un poète vietnamien. En rejetant le langage, mon père s'est-il exilé encore un peu plus de lui-même ?
C'est vrai que c'est le fait que mon père soit devenu aphasique, lui qui... C'est une espèce de retour en arrière, c'est-à-dire qu'il se retrouve... Alors l'aphasie, donc c'est effectivement, il ne peut plus parler, mais les facultés de son cerveau sont intactes. En fait, il n'arrive plus à comprendre les mots. Donc ce qui est très étrange, c'est qu'il est exactement dans la même position que quand il arrivait à 20 ans en France, ou quand vous, Vélibor, vous êtes arrivé sur ce banc à Rennes. Il se retrouve tout nu et il ne comprend plus rien de ce qui se passe autour de lui. Et c'est vrai que mon père, ayant vécu avec beaucoup de secrets non dits, cette histoire non dite, je pense que ça a été un peu comme une prison aussi pour lui. Et le fait d'être forcé au silence... Peut-être que là, au moins, il n'avait plus à assumer le silence pour lui. Voilà, comme ce langage français, il s'est toujours battu avec ce langage. Il n'avait plus besoin de se battre avec les mots.
Daniel Arsan, vous avez été aussi éditeur de littérature étrangère. Vous parliez aussi de la famille de votre père et de ce nom arménien, en fait, qui est le vôtre, hein, Arsandjian.
Arsandjian, oui. Voilà. À ce sujet, il y a une anecdote, c'est-à-dire qu'il y a quand même des résistances. On lui a dit qu'il fallait franciser son nom, donc il fait franciser son nom. Arsandjian devient Arsan, mais il appelle son magasin, il l'appelle Agop, qui veut dire Jacques en arménien. C'est-à-dire qu'il fait franciser son nom et en même temps il donne un nom arménien à son magasin. Et tout ça, comme souvent dans les avec les commerçants, quand c'est chez Henri, on dit monsieur, madame Henri, tout ça, même c'est pas les noms. Et on a appelé mes parents très souvent monsieur et madame Agop. Enfin, donc je trouvais qu'il y avait une résistance en même temps.
Résistance, en tout cas, et littérature, ce sont deux mots qui sont très importants et qui brillent dans votre texte, Daniel Arsan. Je suis en vie et tu ne m'entends pas, que vous publiez chez Actes Sud. Autre variation sur l'exil, exil en soi, double exil, exil au carré, presque. On en parle tout de suite. Vous avez choisi comme choix musical Marlène Dietrich, Black Market. C'est extrait du film de Billy Wilder, A Foreign Affair. En version française, ça donne La Scandaleuse de Berlin.
Black Market, sneak around the corner, Budapest Straße. black market. Peek around the corner. La police qui passe. Come, I'll show you things you cannot get elsewhere. Come, make with the offers, and you'll get your share. Black market. Eggs for statuettes. Smiles for cigarettes. Got some broken down ideal? Like wedding rings? Trade your things. I'll trade you for your candy, some gorgeous merchandise. My camera, it's a dandy, 6x9. Just your size. You want my porcelain figure? A watch? A submarine? A Rembrandt salami? Black lingerie from Wien? I sell my goods behind the screen. No ceiling, no feeling. A very smooth routine. You buy these goods, and boy, these goods are keen.
Black Market, c'était la voix de Marlène Dietrich, cet extrait du film de Billy Wilder, Foreign Affair, La Scandaleuse de Berlin en version française. Et c'est le choix de Daniel Arsan qui publie Je suis en vie et tu ne m'entends pas. Et je voyais Velibor Čolić qui approuvait ce choix musical, n'est-ce pas?
Oui. Bah oui, je disais que derrière des très longue, très belle jambe. Il y avait des personnalités chez Marlène.
Pourquoi ce choix musical, Daniel Arsan?
Parce que d'abord, le film La Scandaleuse de Berlin ou Foreign Affair, ça se passe dans les ruines de Berlin. Mon livre commence dans les ruines.
De Leipzig.
Absolument. Et puis, je trouve qu'il y a chez Marlène, en particulier dans cette chanson qu'elle parle, d'ailleurs, plus qu'elle ne la chante, il y a à la fois quelque chose d'extrêmement charnel, et une sorte d'ironie, mais l'ironie du presque du, je ne sais pas si on peut dire du désespoir,
l'ironie tragique.
Il n'y a plus rien. Il y a alors on a l'ironie encore. C'est comme un adieu quoi.
Vous parliez tout à l'heure, Daniel Arsan, de votre père. Je voudrais quand même rappeler aussi un titre puisque vous n'avez pas mentionné le titre du livre auquel vous faisiez référence, Un certain mois d'avril à Adana, où vous évoquiez cette figure de ce père qui était un petit peu comme le père de Doğan Büyük, c'est-à-dire qu'il ne mentionnait absolument pas sa vie d'avant. Il était arménien.
Oui, il était arménien. Mon grand-père et mon arrière-grand-père ont été massacrés en avril 15, décapités. Après, ma grand-mère, ça n'a pas été facile. Elle s'est cachée, tout ça. Elle est arrivée à venir en France quand même avec 6 enfants. Elle n'a jamais vraiment appris, elle, le français. Mais mon père s'y est mis quand même assez vite. Je crois que d'un seul coup, j'en prends conscience, là, en parlant. Mon père a appris le français un peu comme mon personnage. C'est-à-dire avec une sorte de passion, avec une volonté absolument farouche. Et c'est vrai que mon père avait un vocabulaire insensé. Une des premières choses que je me suis achetée, ça a été les œuvres complètes de Colette. On sait bien que Colette n'a pas 200 mots dans ses livres. Il n'a jamais eu quasiment un problème de vocabulaire.
Donc ce que vous dites, c'est que la littérature encore, c'est vrai qu'on tournait autour de ça, et quand même l'une des, je ne vais pas dire béquilles, mais de l'exilé.
Oui, lui, je pense qu'il était imbibé de contes, de légendes, mais il n'avait, je pense, jamais lu un livre quand il est arrivé en France. Il avait 14 ans. Il n'avait jamais lu un livre. Mais après, il s'y est beaucoup mis. Il y a une chose qui, je pense, m'a beaucoup marqué, c'est que quand ils se sont mariés, pendant que ma mère ravaudait, brodait, chiffrait, lui lisait un livre. Elle le reprenait quand il prononçait mal, quand il lui demandait quand il avait un mot, quand il ne savait pas la signification. Enfin, bon, voilà. Et ce livre-là, c'est peut-être d'où me vient ma passion de Sand. J'ai relu le livre il n'y a pas longtemps qui s'appelle Indiana. J'étais quand même soufflé qu'il lisait ça. Parce que c'est un livre extrêmement compliqué, avec des phrases très, très balancées. Et j'ai été... Là, je suis un peu triste qu'il soit mort, parce que j'ai été très admiratif. Je me suis dit... Pfiou.
Alors, dans « Je suis en vie et tu ne m'entends pas », on découvre Klaus Hirschkuh en 1945, par parlait de ruines, qui déambule dans sa ville natale. C'est Leipzig, hein, ce n'est pas Berlin. Il vient de passer 4 ans à Buchenwald parce qu'il était homosexuel. Il a 23 ans, il frappe à la porte de ses parents et au fond, il va se sentir exilé dans sa propre maison. C'est une très très belle expression d'Annie Larsan. « Là-bas qui n'était pas si loin » ne le serait jamais. Et vous emmenez le lecteur dans la vie de ce Klaus Hirschkuh, à la fois au moment de son retour et puis dans ce passé, dans ces années de Buchenwald extrêmement dures, puisqu'il était ce qu'on appelle un triangle rose, c'est-à-dire un homosexuel, quelque chose qui vous valait non seulement la mort, mais d'atroces tortures dans les camps nazis. Et curieusement, Daniel Arsan, on a l'impression en fait que cet ouvrage-là aborde la question de l'exil, mais que celui-ci prend plusieurs tours. C'est l'exil qui est imposé dans les camps de concentration pendant la guerre, c'est l'exil volontaire en France de cet homme pour se reconstruire, c'est l'exil par rapport à sa famille, et c'est même l'exil sentimental qui est imposé par la mort de l'amant. Est-ce que vous avez mis volontairement votre ouvrage sous le signe de ces exils multiples, ou est-ce que finalement c'est un constat a posteriori?
C'est plutôt un constat a posteriori, mais il y a plusieurs formes d'exil. Je pense que Buchenwald, ça lui a été imposé. Chez ses parents, ça lui a été imposé. Mais quand il vient en France, il ne s'impose rien. C'est une volonté, parce qu'il vient conseillé, aidé par un ami français qui est en Allemagne. Il aurait pu dire non, mais il sait que il ne veut plus parler allemand, parce que l'allemand est devenu la langue de sa famille. Donc une langue presque honnie, la langue qui rejette, qui vous rejette, et c'est venu la langue de Buchenwald.
C'est vrai que c'est ce qui peut-être vous sépare des deux autres livres dont on parle cet après-midi, Manuel d'exil de Velibor Čolić et Le silence de mon père de Doane Bui, c'est que la question de l'exil se complexifie par le fait que la patrie d'origine est au fond honnie.
Oui, et ce qui est un moment qui est très très perturbant pour lui, c'est-à-dire qu'il a été mis dans un camp de concentration parce qu'homosexuel, et quand il va arriver en France, il va être agressé en tant qu'Allemand. Et d'un seul coup, il comprend que pour tous les autres, il est avant tout un Allemand, et on est quelques années hein, après la guerre. Mais... c'est un combattant, hein, je crois. Klaus Hirschkuh, il se bat, vraiment.
Alors, je voudrais qu'on le découvre. C'est le moment du retour. Il arrive dans sa ville natale.
Klaus Hirschkuh avait près de 40 ans. Un bel homme dans sa ville natale. Le premier soir, il dîna dans un restaurant chic d'un jarret de porc et de choux à l'aigre doux, le tout arrosé d'un vin blanc sec. Il avait, comme René sur le quai, des larmes dans la gorge et la tête. Ses yeux les refusaient. Allemagne, Allemagne. Où des parents l'avaient nourri comme s'il avait été un prince, où des bourreaux l'avaient affamé. Il ne se hasarda pas à se promener dans Leipzig. Il y aurait pourtant rencontré des garçons. Où n'en rencontrait-on pas? Mais c'était dans un square parisien qu'il aurait préféré bagnauder. Il dormit d'une traite. Le matin, il s'habilla avec soin, nerveux. Ce costume était son œuvre. L'immeuble avait été ravalé, cage d'escalier repeinte, rampe soigneusement cirée. Il se voûtait en revenant de là-bas, il se tenait droit en montant les marches aujourd'hui. Il était maintenant un homme présentable. La sonnette marchait, bruit bête qui fendait tout le cœur. Ils avaient répondu à sa missive. « Tu es vivant, Klaus, viens, ne tarde pas trop. » Un orage d'émotion. Herbert Hirschkou ouvrit. Cette porte produisit en Klaus quelque chose de presque insupportable. Voilà son père, vieilli. Et ne nous en étonnons pas. Papa, dit Klaus. Ils s'embrassèrent dans une ferveur désespérée. La réponse à son courrier avait été rédigée par papa. Klaus s'en rendit compte seulement à cet instant. La mère était dans la chambre, sur son lit. Anna Hirschkou appelait. Elle n'était plus la même, avertit Herbert. Il disait une vérité qui le ravageait. « Je t'aime, murmura Klaus à son père. C'était un amant qu'il aurait voulu susurrer cet aveu. Alors, pourquoi revenir maintenant ?»
Merci Daniel Arsan. C'est un extrait donc de « Je suis en vie et tu ne m'entends pas », votre roman publié chez Actes Sud. Est-ce que vous marquez, on l'a vu avec cet extrait-là, vous mettez vraiment l'accent, non pas sur le fait que quand on revient dans le pays natal, il y aurait une joie, il y aurait une réconciliation, mais au fond sur une réconciliation impossible, sur cette nostalgie, savoir que pour l'exilé, le retour est toujours au fond une fêlure de plus. Est-ce que c'est pas ça aussi qui donne la teneur littéraire, la teneur sentimentale, la teneur essentielle à la notion d'exil ?
Oui, mais je pense que Klaus, lui, a construit à partir de son exil une sorte de liberté où il peut vraiment vivre. Et quand il revient dans son pays, comme ça, par hasard, d'un seul coup, c'est lui, il a envie de voir, de revoir ses parents, mais c'est presque, il s'en aperçoit très très vite, une vérification. Il vérifie si ce sont vraiment des ruines. Et il se rend compte qu'il n'y a plus rien.
Et surtout, il y a son corps.
Il y a son corps.
Il y a son corps, lui. Il y a très, très beau passage qui marque vraiment le retour aussi dans son corps. Une toilette, une très longue toilette. Il se lave 3 fois. Il revit aussi la douleur des camps. C'est vrai que vous décrivez ce qu'on faisait aux homosexuels, jeter aux chiens. Les chiens qui dévoraient en fait ces gens, les humiliations, les viols aussi à répétition. Et on a ce très beau passage où ce corps brisé, peu à peu, se redresse. Quelle drôle d'entreprise d'atteindre le dos, son milieu, ce creux et ses 2 vallonnements. Il le lui léchait, je t'aime, c'était Heinz qui parlait, je t'aime, c'était un capot qui parlait. Personne ne l'avait aimé comme eux, même pas ses parents, de l'amour plein des cargaisons, poésie portuaire. Le plaisir revenait car c'en était teint de se laver, se recréer avec un infect bout de savon verdâtre, un gant de toilette et de l'eau en filet. Il y a le retour au corps. C'est ce qu'on disait avec Ovid, c'est ce qu'on disait avec Velibor Čolić aussi, sur ce corps encombrant. Finalement, là est la clé.
Il revient à la vie et il accepte la vie qui est en lui. C'est à partir de ce matin-là où il va se laver 3 fois. C'est comme le même rite de purification. Là aussi, comme pour vérifier qu'il est en train de renaître. En définitive, quand il va récupérer son corps, il se donne presque vie. Et à un moment, d'ailleurs, il le dit qu'il s'aime d'une certaine manière.
C'est alors qu'il a fallu coucher avec les capots pour survivre. Parce que ça, vous racontez aussi
absolument,
très bien.
Absolument, ce qui a été, d'ailleurs. Le retour des camps pour les homosexuels était extrêmement compliqué. Pour les jeunes Allemands, s'ils disaient qu'ils étaient homosexuels pour essayer de toucher des indemnités, on les remettait en prison, parce qu'il y avait le fameux paragraphe 175 où être homosexuel était un scandale.
Titre d'un documentaire formidable.
Qui est extraordinaire. La deuxième chose, c'est que souvent ils avaient dit à leurs parents qu'ils étaient déportés pour raisons politiques. Et puis la troisième chose, c'est que beaucoup d'homosexuels n'osaient pas dire qu'ils avaient été internés à cause de ça, parce qu'ils avaient été châtrés souvent. Voilà. Donc c'était vraiment extrêmement dur.
Hermann, Marc, Rudy, des prénoms dans un calendrier comme une fosse à ciel ouvert, Buchenwald, forêt de hêtres, Klaus continue à aimer les arbres, le portail de Buchenwald et son fronton à l'inscription en fer forgé, à chacun son dû, les poux de Buchenwald et de Schachenhausen, chou, poux, hibou, chantonnait René, tout allait mieux entre eux, on ne s'attardait pas dans une vaine colère, chou, poux, hibou, petite danse macabre très musicale, hibou et après, glaire, purin, urine. On a l'impression, Daniel Arsan, que les phrases s'emballent, que les ponctuations disparaissent sur une, deux pages, laissant place à une véritable cascade de mots, ou bien parfois ils sont égrenés comme dans un poème. Et ce passage m'a donné envie, ce sera notre dernière question, et elle s'adresse à vous trois. Est-ce qu'il a fallu trouver tous une langue pour écrire aussi ces histoires d'exil? Parfois c'était votre exil, parfois c'était l'exil de votre père, Doan Bui. Est-ce qu'écrire l'exil, c'est toujours écrire autour du blanc? Est-ce que finalement tout le but ne revient pas à trouver une écriture qui corresponde à cela?
Alors, permettez-moi de me auto-citer, si vous voulez.
Vélibor
Tchalic. Ça m'arrive parfois d'être d'accord avec moi. Moi-même, pas tout le temps. N'ayez pas peur, c'est court, c'est bien écrit, c'est en français, donc, et c'est modeste. Pour moi, la clé de mon exil écriture peut passer par là. Donc, je suis dans le foyer de demandeurs d'asile à Rennes. Il y a une situation qui arrive. Je monte l'escalier, traverse le couloir et j'entre dans ma chambre. Je m'allonge sur le lit. Alors je baisse le bras et j'attrape mon nouveau, tout nouveau, et sans doute magnifique, recueil intitulé « Jaguar, février, mars, avril ». J'étudie longuement, une petite éternité, mes propres vers. Et cela me redonne de l'espoir et de courage. Nom de Dieu, je suis un poète. Je ferme mon carnet et tire la couverture jusqu'à mon menton. Tout baigne, tout est en ordre. Mes alliés, mes saints patrons, Prévert, Camus, Célan, Pound, sont de nouveau là. Rien à craindre. L'an dernier, j'étais encore un peu prétentieux, mais cette année, je suis parfait.
Merci, Vélibor Tchalic. Doan Bui,
oui, chercher les blancs, je pense que pour moi, c'est passé par une écriture très fragmentaire, très forme de puzzle, avec des WhatsApp, un petit peu tout.
Oui, l'irruption du contemporain.
Voilà, totalement. Parce qu'en fait, il n'y avait que ça qui me permettait d'appréhender cette énigme qui était l'exil de mon père. Et même vers la fin, en fait, mon jeu cède la place à d'autres jeux.
Par le fragment.
Et par le fragment.
Une langue fragmentée, voilà. Et WhatsApp, vous le disiez, groupe Bui, vous êtes l'administrateur. Bui 2, Bui 3, Bui 4, Bui 5 font partie du groupe. Maman Bui a rejoint le groupe et vous le direz d'ailleurs, Bui un jour, Bui toujours.
Exactement.
Voilà. Daniel Arsan, sur le fait de chercher justement une langue.
C'est pas du tout l'écriture, mon écriture habituelle. Enfin, tout au moins, il a fait plusieurs livres pour arriver à ça. Mais c'est vrai que ça a été déjà très violent parce que j'étais sur un roman qui était sur Rock Hudson. Et d'un seul coup, m'est venu, ça a été comme une obligation, une urgence d'écrire ce livre. Et peut-être que c'est la seule fois que ça m'est arrivé. C'est-à-dire que je me suis senti extrêmement physique en écrivant ce livre. C'était très étrange. C'était comme au pays des fantômes. Et plus j'écrivais là, voilà, des revenants. Et plus j'étais là, plus je me sentais vivant. Et en même temps, plus je me sentais vivant, j'étais dans un désespoir terrible. C'est la première fois que j'écrivais ce roman, tout au moins le début, vraiment sanglotant. Et peut-être que le style a été sangloté d'une certaine manière.
En pensant à votre père aussi, cet exilé?
Non. Non, parce que c'était en pensant, presque à moi-même, parce que quand j'ai commencé le livre, je me suis rendu compte d'une chose qui était à laquelle je n'avais jamais pensé et qui était évidente, c'est-à-dire que j'étais, avant d'être français, avant d'être arménien, j'étais homo.
Merci beaucoup, Daniel Arsan. Merci beaucoup, Doan Bui.
Merci.
Merci, Vélibor Tchalic.
Merci à vous.
Je rappelle les titres de vos ouvrages. Donc, Vélibor Tchalic, Manuel d'exil. Comment réussir son exil en 35 leçons, c'est chez Gallimard. Doan Bui, Le silence de mon père, chez l'Iconoclaste. Et Daniel Arsan, Je suis en vie et tu ne m'entends pas, c'est chez Actes Sud. Merci. Le temps des écrivains, c'est Avril Ventura, Charlotte Roux, avec à la technique Valérie Lavalard et la complicité bienveillante et efficace de Lénaïgue Cariou. Vous pouvez nous suivre et commenter sur la page de France Culture, la page Facebook, sur le compte Twitter aussi. Cette émission consacrée à l'exil, vous pouvez la podcaster pendant un an et la réécouter pendant 1000 jours sur franceculture.fr. Je vous retrouve dès lundi pour le temps des libraires à 10h55.